Je suis Odile Aumonté et je travaille dans l'édition catholique depuis de nombreuses années. Je suis aussi auteure de livres. J'ai écrit presque 60 livres, plus d'une cinquantaine de livres, donc essentiellement des vies de saints et des livres de spiritualité, dont ce livre sur Saint Joseph. Et puis voilà, je peux ajouter que je suis mère de famille, je suis mariée, j'ai 5 enfants. Alors Saint Joseph, je ne l'ai pas découvert, je n'ai pas de souvenir d'une rencontre avec lui parce qu'en fait je l'ai toujours connu. Et c'est vrai que dans ma famille, on ne priait pas tellement les saints pour leur demander quelque chose ou pour leur demander d'intercéder, mais en fait on vivait avec eux, ils faisaient vraiment partie de la famille. Et je trouve que c'est important de s'appuyer sur l'exemple des saints parce qu'ils sont un peu comme des frères aînés qui nous montrent le chemin grâce à tout ce qu'ils ont vécu. Grâce à tout ce qu'ils ont dit ou écrit. En fait, ils sont des guides pour nous et je trouve que c'était important. Donc, peut-être c'est pour ça que j'ai écrit autant de vies de saints, mais je trouve que ce sont des bons modèles pour nous et que voilà, c'est important pour les familles d'en parler aux enfants, aux jeunes. On a toujours besoin de modèles, de guides. Et je trouve dommage que Saint Joseph, par exemple, on ne s'adresse à lui que pour lui demander de prendre en charge nos besoins matériels ou financiers, de résoudre nos problèmes. Par exemple, on va le prier pour nous trouver un travail, une maison, pour permettre que notre famille ne manque de rien. Et bien sûr que c'est important, bien sûr qu'il s'en occupe volontiers, mais il me semble qu'il peut et qu'il veut nous donner beaucoup plus que cela. En fait, quand on regarde la vie des saints, tous les saints ont cherché à imiter Jésus, à se rapprocher de lui, à lui ressembler de plus en plus. Certains même l'ont vu dans des apparitions, et tous veulent nous transmettre leurs secrets. Par exemple, Thérèse, je pense à la petite Thérèse avec sa petite voix ou Saint Ignace avec les exercices spirituels. Tous, en fait, ont un secret pour nous permettre de nous approcher de plus en plus de Jésus, pour nous permettre de vivre de la vie de Dieu. Et donc, quel est le secret de Saint Joseph? Eh bien, je pense que le secret de Joseph, c'est d'avoir vu Dieu, parce que Jésus nous dit qu'il m'a vu, a vu le Père. Et c'est vrai que, eh bien, Joseph a vu Dieu de ses yeux en voyant Jésus. Il a tenu Jésus nouveau-né dans ses mains. Il a vu Dieu faire ses premiers pas sur la terre qu'il a lui-même créée. Joseph en Jésus a vu Dieu faire l'apprentissage de la vie. Il a appris à marcher, il a appris à parler, il a vu Dieu traverser l'adolescence, il a vu Dieu travailler le bois dans son atelier de charpentier, et surtout il a vu Dieu prier. Et je pense que c'était quelque chose de vraiment incroyable, et que voir Jésus prier, et les disciples aussi, mais en fait Joseph a fait tout cet apprentissage depuis Jésus tout petit, de se rendre compte comment c'est venu petit à petit, comment la relation entre Jésus et son Père du ciel a grandi. Et je pense que c'était quelque chose d'incroyable et que c'est ça qu'il veut nous transmettre. Alors c'est important pour nous de lui demander de s'occuper de notre vie spirituelle, de notre vie de prière, de notre vie d'union à Dieu et de communion avec les autres, et pas seulement de nos besoins matériels. La Vierge Marie, dans son apparition de la rue du Bac, est représentée avec des rayons qui sortent de ses mains, et elle explique que ces rayons symbolisent les grâces qu'elle veut répandre sur les personnes qui l'a pris, et certains rayons sont éteints. Et Marie dit: « Ce sont les grâces qu'on ne me demande pas. » Donc je pense que Saint Joseph aussi veut nous donner de nombreuses grâces, mais que trop souvent, malheureusement, nous ne les demandons pas. Alors je pense que ce soir, c'est une bonne occasion de réfléchir à tout ce que nous pouvons lui demander comme grâce et qu'il va nous donner parce qu'il nous aime et qu'il se réjouit à chaque fois que nous avons le désir de nous tourner davantage vers Dieu et vers Jésus. Alors, comment j'ai écrit ce livre, Joseph, le secret du juste? Alors, en fait, donc comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un roman et on peut penser que qu'un roman, pour parler Saint-Joseph, c'est un peu bizarre, mais en fait, ça permet de donner beaucoup d'informations sur ce qu'était la vie au temps de Jésus, sur ce qu'était son travail, sur tout ce qu'il a. Voilà, sa façon de vivre. Donc, en fait, le roman, bon, là où j'ai un peu triché, c'est que il s'arrête avant la naissance de Jésus. C'est-à-dire, c'est juste au moment du départ pour Bethléem, donc juste avant l'évangile de la Nativité, que j'arrête le livre, en fait. Donc, je raconte l'enfance et la jeunesse de Joseph. Alors, la première idée m'est venue en tombant sur un texte de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, une mystique allemande qui recevait des visions du Nouveau Testament et de la vie de la Vierge Marie. Et donc, dans une de ces visions, elle évoque l'enfance de Saint Joseph. D'après ce qu'elle pensait, il serait né à Bethléem et il était un enfant maltraité, un enfant battu, en fait. Et donc, ça m'a beaucoup frappée. Et puis, la deuxième chose, c'est en fait, quand on lit en parallèle la généalogie de Jésus dans Saint Matthieu, donc qui descend d'Abraham jusqu'à Joseph, et la généalogie de Jésus dans Saint Luc, qui remonte de Joseph jusqu'à Dieu, eh bien, il y a une contradiction qui apparaît, c'est-à-dire que Joseph n'a pas le même père dans les deux évangiles. Son père chez Matthieu s'appelle Jacob et chez Luc s'appelle Élie. Et quand on regarde le grand-père, bon, entre Matan chez Matthieu et Matat chez Luc, on peut se dire bon, que c'est le même homme, donc le même grand-père et pas le même père dans les deux évangiles. Donc en fait, j'ai cherché et puis j'ai trouvé une loi dans le judaïsme qui s'appelle la loi du Lévirat et qui permet à un homme de donner une descendance à son frère quand celui-ci n'a pas d'enfant. Donc, ne pas avoir d'enfant, pour les Juifs, c'était une malédiction parce que comme ils attendaient la naissance du Messie, eh bien, être stérile, c'était se priver de la possibilité de donner la vie au Messie qu'ils attendaient donc, depuis des siècles. Et donc, cette loi, en fait, permettait à un homme de donner une descendance à son frère, soit en épousant sa veuve si le frère était mort, soit en lui confiant un de ses enfants, donc une sorte d'adoption, mais l'enfant devenait vraiment son fils, parce que dans le judaïsme, la paternité et la maternité sont davantage spirituelles que physiologiques. Le plan physique n'arrive qu'en second, et donc voilà, quand on adopte un enfant, il devient vraiment le fils de sa nouvelle famille. Donc, j'ai imaginé que Joseph vivait à Bethléem et qu'il était le fils de Jacob et que Jacob le détestait, donc le maltraitait parce qu'il était trop pieux, trop doux, trop pur. Et donc, dans mon livre, on voit arriver Élie, le frère de Jacob, qui est marié, mais qui n'a pas d'enfant. Et donc, il se reconnaît en Joseph et il décide de demander à Jacob la possibilité d'adopter Joseph. Et Jacob, qui est ravi finalement de se débarrasser de Joseph en quelque sorte, accepte. Et donc, Élie part à Nazareth avec Joseph et lui apprend son métier de charpentier. Donc c'est comme ça qu'on a à la fois Joseph à Nazareth, dont on voit dans l'évangile qu'il est pleinement intégré dans la vie en tant que charpentier, dans la vie du village en tant que charpentier, et puis à la fois au moment du recensement, il doit partir se faire recenser dans sa ville d'origine qui est Bethléem. Donc ça permet de comprendre pourquoi il part à Bethléem et pourquoi sa ville d'origine n'est pas Nazareth. Donc voici la trame de mon livre, Joseph, le secret du juste, avec cette explication qui peut-être n'est pas véridique, mais qui en tout cas est plausible selon la tradition du judaïsme et selon également la tradition catholique. Rien ne vient contredire cette idée. Voilà, donc pour écrire ce livre, j'ai eu beaucoup de sources, à la fois juives et catholiques. Je suis allée en Israël, bien sûr. J'ai beaucoup étudié les fêtes juives. J'ai eu la chance, quand j'ai habité en Afrique, de côtoyer la communauté juive qui, là-bas, se sentait très isolée et finalement se tournait vers les chrétiens parce que, voilà, il y avait une affinité. Et puis, mon mari et moi, nous connaissions bien les chants juifs, les fêtes juives. Donc, voilà, c'était l'occasion d'échanges très riches. Donc, ils m'ont expliqué beaucoup de choses et j'ai beaucoup reçu d'eux, des juifs, et puis également la tradition catholique qui a beaucoup réfléchi sur tout ça, sur Joseph, sur l'enfance de Joseph, de Jésus. Voilà. Donc j'en viens à dresser un portrait de Joseph. Alors, on a souvent... Mais de moins en moins aujourd'hui, mais dans le passé, on a souvent imaginé Joseph comme étant un veuf âgé, et cela permettait en fait de protéger la virginité de Marie, parce que finalement, avec un homme qui a déjà été marié, qui est avancé en âge, elle n'avait rien à craindre pour sa virginité. Or, je pense que c'est réduire Joseph à peu de choses, alors que c'est vraiment un saint, pour moi, le plus grand saint. Et donc j'ai envie voilà, d'aller contre cette idée, et d'autres l'ont fait. Je sais que plusieurs papes ont aussi demandé qu'on arrête de considérer Joseph comme un vieillard qui n'a eu rien d'autre à faire qu'être là et puis apporter une protection illusoire à Marie. On se demande comment ce vieil homme aurait pu vivre tout ce qu'il a vécu avec la Sainte Famille, partir en Égypte, être prêt voilà, se lever en pleine nuit pour sauver l'enfant. Et donc, voilà, dans la Bible, en fait, le plus souvent, tout ce que nous devons savoir est précisé. Donc, si la Bible ne nous dit pas que Joseph était veuf quand il s'est marié avec Marie, eh bien, je pense tout simplement parce qu'il ne l'était pas. Et donc pour moi, selon la tradition de cette époque, Joseph avait 18 ou 19 ans et Marie avait 14 ou 15 ans. C'est ce qui se faisait à l'époque pour les mariages. Donc au moment de l'Annonciation, ils sont mariés, mais ils ne vivent pas encore ensemble parce qu'en fait, le mariage juif se vivait alors en deux étapes. La première étape, c'était la promesse de mariage. Les époux s'engageaient déjà dans la fidélité et l'homme pourvoyait aux besoins de sa femme, mais chacun continuait à vivre chez ses parents. Et c'est environ un an plus tard qu'une deuxième cérémonie célébrait le début de la vie commune et que l'épouse était conduite chez son époux. Donc cela ressemble un peu à nos fiançailles, mais l'engagement était beaucoup plus fort, c'est-à-dire que le lien du mariage existait déjà et pour le rompre, eh bien, il fallait un divorce. Ce n'était pas simplement la rupture d'une promesse comme le sont nos fiançailles actuelles. Et donc, cela explique pourquoi Joseph, pour se séparer de Marie, devait la répudier. En fait, quand il s'est rendu compte qu'elle était enceinte, il a voulu la répudier en secret parce qu'il a eu l'impression de s'immiscer dans le plan de Dieu. Donc, pour revenir au portrait de Joseph, je pense que être l'époux de la plus sainte des mères, de la plus sainte des femmes de notre terre, eh bien, Dieu avait prévu le plus parfait des époux. Et si l'on repense à tous les héros de la littérature et du cinéma, tous ces jeunes gens rayonnants, magnifiques, nobles et courageux, est-ce que finalement ils ne dessinent pas pour nous le portrait du plus merveilleux d'entre eux, le beau visage de Joseph qui a été choisi pour devenir le père terrestre de Jésus, son protecteur, son éducateur? Il me semble que vraiment Dieu l'a choisi avec beaucoup d'attention, beaucoup de délicatesse Et que voilà, il faut avoir ça en tête quand nous réfléchissons à Joseph, quand nous essayons de dresser un portrait de lui. Et je pense que ce qui est très important aussi, c'est de voir l'amour entre ces deux personnes, entre Joseph et Marie. Eh bien, il y avait beaucoup d'amour. Joseph aimait Marie et Marie aimait Joseph, car le fils du Dieu d'amour n'aurait pas pu grandir dans une famille où il n'y avait pas d'amour, dans une famille où finalement on était dans une sorte de mascarade du mariage, quelque chose qui n'était pas complètement sincère, qui est un peu trafiqué. Et donc ça, non, ce n'est pas possible. Alors bien sûr, cet amour fut chaste et cet amour fut pur, mais pas parce que les relations charnelles sont mauvaises. Parce que, en fait, cet amour appartient déjà au ciel. Comme le dira Jésus, les élus ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir, ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Donc, on peut dire que Joseph et Marie vivent déjà du ciel, vivent déjà de la résurrection, et qu'ils sont pleinement mari et femme, mais sans l'union physique, parce que leurs corps sont déjà tellement tournés vers le ciel, tellement déjà brûlés par l'amour de Dieu, qu'en fait, ils n'appartiennent plus vraiment à la terre. Et donc, dans mon livre « Joseph, le secret du juste », j'ai aimé imaginer le moment où chacun d'eux comprend qu'il peut s'appuyer sur l'autre pour vivre pleinement sa consécration à Dieu, chacun voulant rester dans la virginité. Et à l'époque, eh bien justement, à cause de la malédiction qui est attachée à la stérilité, eh bien, comment faire? Donc, j'ai imaginé voilà, le dialogue entre Joseph et Marie. C'est page 116 du livre. « J'ai pensé à une solution pour toi, dit Joseph. Il faudrait que tu épouses un homme qui a fait le même vœu que toi. Ainsi, il serait le gardien de ta virginité et toi de la sienne. Aux yeux du monde, tout serait parfaitement normal et tu n'aurais à supporter que le reproche de ton apparente stérilité. » Marie pose sur lui un regard de surprise. « Bien sûr, répond-elle doucement, mais quel homme accepterait cela ? Je ne connais personne qui… » Elle s'interrompt et, comme il se tait, elle achève en un souffle, « Il n'y a que toi. » D'un geste empreint de respectueuse tendresse, il lui prend la main et demande, « Veux-tu m'épouser, Marie ?» La petite main brune se referme aussitôt sur les doigts du jeune homme. Dans les yeux clairs qui rient, sur le visage lumineux où grandit la joie, Joseph découvre avec étonnement ce qu'il aurait pu y lire depuis longtemps déjà, s'il n'avait imposé une garde sévère à ses yeux, à ses sentiments, à son cœur. Marie aime Joseph. Marie danserait de bonheur si elle ne tenait la main de Joseph si étroitement serrée. Et des lèvres pures coulent des mots plus doux que le miel, plus parfumés que la myrrhe, plus scintillants que l'or, des mots dont la portée dépasse infiniment leurs deux destins. Oui, Joseph, je veux être ta femme. Donc c'est un peu pour cela que Joseph peut être à la fois le modèle, tout comme Marie bien sûr, le modèle des gens qui sont mariés et le modèle des personnes qui ont choisi le célibat consacré. Donc Joseph veut veiller sur nos familles, il est vraiment le gardien de la famille tout en étant le gardien des personnes consacrées. Et plus que jamais, je pense, dans un monde qui est secoué par la tempête, par une remise en cause de toutes les valeurs, même les plus fondamentales, comme le droit d'être un homme ou une femme par exemple, ou le droit à la vie depuis notre conception jusqu'à notre mort naturelle, eh bien nos enfants ont besoin de pères, ont besoin d'un modèle de père, non pas un papa poule ou un papa copain, mais vraiment un papa qui est père, qui est un vrai père. Et quand on met un tuteur à une plante pour l'aider à grandir, eh bien il faut que ce tuteur soit solide. S'il plie avec la plante, il ne sert à rien. Ainsi en est-il, je pense, du rôle du père. Je ne parle pas d'une rigidité qui a pu faire beaucoup de mal dans le passé. On pense à des exemples de pères qui étaient des patriarches et devant lesquels les enfants tremblaient. Et ce n'est pas ça du tout, mais Voilà, il ne faut pas que nous ayons peur de nos enfants, que nous ayons peur de leur déplaire dans l'éducation. Parfois, on dirait que c'est un peu ça, mais il faut vraiment oser leur mettre un cadre, poser des exigences, être à la fois ferme et juste. Et Joseph veut vraiment nous y aider. Nous aimerions que nos enfants grandissent comme Jésus, en sagesse, en taille et en grâce, ce que nous dit l'Évangile. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. La maladie, le handicap, la délinquance, le mal-être, les mauvaises fréquentations, la provocation, la violence, les tendances suicidaires, nos causes d'inquiétude en tant que parents sont très nombreuses. Et c'est difficile pour nous de sentir que nous sommes impuissants devant la détresse de nos enfants. Alors, quand nous avons fait tout ce qui est humainement possible, il nous reste la possibilité de les confier à Saint Joseph, lui qui fut le plus grand de tous les pères, puisqu'il éduqua le Fils de Dieu lui-même. Il veillera sur nos enfants, nous pouvons lui faire confiance, il les remettra dans le droit chemin, un chemin où ils pourront être heureux, se sentir en sécurité, donner le meilleur d'eux-mêmes et se savoir aimer d'un amour qui dépasse tout ce qu'ils peuvent imaginer, l'amour de Dieu. Alors, pour parler de... Voilà, pour parler de Joseph, je pense aussi qu'il nous aide à mourir. On l'appelle le patron de la bonne mort et c'est vrai qu'on ne sait ni quand ni comment il est mort, mais c'était sans doute peu de temps avant la vie publique de Jésus. Alors, je me dis que ça devait être très dur parce qu'il connaissait bien les Écritures, il les connaissait sur le bout des doigts, il savait que le Messie était le serviteur souffrant d'Isaïe, il savait que le Messie était appelé à souffrir et à donner sa vie. Et donc, je pense que c'était très dur pour lui de partir en sachant qu'il ne serait plus là pour soutenir les deux personnes qu'il aimait le plus au monde, Jésus et Marie. Comme il les avait toujours protégés jusque-là, qu'il ne pourrait plus s'en occuper, qu'il ne pourrait plus les soutenir et veiller sur eux. Et je pense que ça a été le dernier grand sacrifice de sa vie d'accepter de partir. Et la grande grâce qu'il a eue et que nous souhaitons de tout notre cœur, c'est de mourir entre les bras de Jésus et de Marie. Et... il est passé des bras de Jésus aux bras du Père du Ciel et c'est ce qu'il peut nous donner aussi. Alors c'est vrai que bien sûr, nous avons peur du changement qu'apporte la mort, nous avons peur de la séparation d'avec nos proches, nous avons peur de cette plongée dans l'inconnu que nous ne pouvons même pas imaginer, mais je pense que nous ne devons pas avoir peur de la mort parce que même si c'est très humain, très naturel, eh bien Joseph nous rappelle avec les mots de la petite Thérèse que mourir, c'est tomber dans les bras de Dieu, c'est tomber dans les bras de l'amour et il peut nous aider à ça aussi, à faire renoncer petit à petit peut-être à des choses dans notre vie qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et également, le dernier renoncement, eh bien, ce sera le renoncement à la vie, ce sera d'accepter de partir pour rejoindre le ciel.
Saint Joseph est déjà, comme vous le disiez, en fait une première image de Dieu le Père, une première image en fait de l'amour que Dieu a pour nous. Avant que Jésus puisse montrer cette image, il était peut-être encore trop jeune, mais comme si vraiment il avait une place particulière pour déjà être cette première figure de Dieu le Père.
Oui, c'est vrai que c'est étonnant de voir que la plupart des saints, tous les saints finalement ont essayé de, comme nous, de ressembler à Jésus. Et alors que Joseph, lui, c'est l'image du Père. Et je pense que c'était déjà une façon de préparer peut-être la mission de Jésus qui était de conduire chacun de nous vers son Père. Et finalement, Joseph lui rappelait à chaque instant quelle était cette mission. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans l'épisode du recouvrement de Jésus au Temple, quand Jésus a 12 ans, en fait, au lieu de retourner à Nazareth avec ses parents, reste à Jérusalem. Et ses parents, pendant 3 jours, le cherchent dans une grande angoisse. Et quand il le retrouve au temple, Jésus a cette parole qui nous semble très, très dure, en réponse à Marie. Il dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Je dois être aux affaires de mon père. » Et d'autres traductions disent « Dans la maison du père. » Mais voilà, en fait, il dit ce mot « père » en parlant de Dieu. Et Joseph, on imagine qu'il le reçoit en plein cœur en disant « ça y est, j'ai compris, je dois laisser Jésus accomplir sa mission, je dois m'effacer devant le Père du ciel, car maintenant c'est lui, voilà, c'est vers lui que Jésus va conduire les hommes. » Et pourtant, Jésus reprend sa place et retourne avec eux à Nazareth, leur est soumis, nous dit l'Évangile. Et ce ne sera qu'à l'âge de 30 ans, je pense à quand Joseph est mort, qu'il commencera vraiment sa vie publique et à accueillir sa mission, à réunir ses disciples et puis commencer sa mission. Mais c'est vrai que nous révéler le Père, c'est vraiment la mission de Jésus, c'est vraiment ce qu'on voit qu'il essaye de faire par tous les moyens possibles et imaginables. Il nous apprend le Notre Père, il nous invite par les paraboles à nous tourner vers le Père. Avec la parabole du fils prodigue, il nous dit « Mais regardez comment mon Père est miséricordieux, regardez, tous vos péchés ne vous sépareront jamais de lui, parce que rien ne peut vous séparer de son amour qui est tellement grand. » Donc je crois que oui, Joseph, c'est vraiment la figure du Père des miséricordes, du Père qui veut nous accueillir comme des enfants qui reviennent vers lui.
Alors nous avons un appel de Christiane. Bonjour Christiane.
Oui, bonjour. Je voulais savoir comment vous avez su que Joseph pouvait avoir 19 ans. Moi, dans les écrits que j'ai lus un petit peu comme ça, je pensais à peu près qu'il est la trentaine, disons. Un petit peu plus double de Marie.
Mais en fait, il n'y a pas plus de sources qui nous disent qu'il avait 30 ans ou qu'il avait 18 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que à l'époque, les garçons se mariaient vers 18-19 ans. Et que donc, on n'aurait pas pu expliquer pourquoi il ne s'était pas marié jusqu'à 30 ans. Et s'il avait été marié avec une autre femme que Marie et s'il avait été veuf, eh bien, je pense que l'Évangile nous l'aurait dit, parce qu'en fait, très souvent dans la Bible, on nous dit que telle femme est veuve. Je pense par exemple à Siméon et Anne dans le temple, à la présentation de Jésus au temple, on nous dit qu'elle était veuve et elle vivait dans le temple. Donc je pense que si Joseph était veuf, nous l'aurions su, l'Évangile l'aurait précisé. Et s'il n'est pas veuf, eh bien il doit, selon la coutume de l'époque de son village, il doit se marier vers la vingtaine.
Ah oui, mais... bon, moi j'ai jamais cru non plus qu'il avait été marié avant, hein, mais bon, je pensais qu'il était quand même un peu plus âgé. Par contre, je voulais vous dire que bon, quand on est arrivé sur la Côte d'Azur, on a recherché du travail et donc on a prié Saint-Joseph et finalement il n'avait pas voulu prendre un emploi qu'on lui donnait parce que c'était assez loin ou je ne sais plus pour quelle raison. Et puis finalement, ça s'est présenté qu'il a quand même pris ce travail-là, puis finalement il en a été content.
Ah oui, c'est un beau
voilà,
défi.
Saint-Joseph, il nous trouve aussi tout ce qui est matériel.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Merci Christiane pour votre témoignage, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, alors nous allons arriver bientôt au terme de l'émission, mais peut-être avant de terminer cette émission, quels conseils auriez-vous à donner effectivement aux hommes pour qu'ils puissent se mettre vraiment sous cette protection de Saint-Joseph? Comment peuvent-ils faire? Quels conseils pouvez-vous leur donner pour les aider à être de bons pères et de bons époux?
Eh bien, je pense que oui, ils peuvent se confier à Saint-Joseph en lui demandant de leur inspirer la juste attitude, que ce soit vis-à-vis de leur épouse, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leur travail, c'est-à-dire qui leur donne toutes ces qualités qui sont à la fois l'humilité et la tendresse, la prudence, la compassion. Je pense que Joseph, dans son village, c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Il était là quand il y avait, par exemple, un effondrement, quand il y avait une catastrophe, quand il y avait un deuil. Il était là avec Marie, il s'occupait de lui, il s'occupait de réconforter les hommes. Marie s'occupait de réconforter les femmes. Et je pense que voilà, en fait, regarder Joseph vivre, essayer de l'imaginer dans son village de Nazareth, ce qu'il aurait fait, qu'est-ce que Joseph aurait fait à ma place, comment est-ce qu'il peut m'inspirer et comment est-ce qu'il peut me guider.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir offert ce temps à nos auditeurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaiteriez conclure avec quelque chose d'autre ?
Eh bien, peut-être... oui, j'ai envie de remercier le pape François pour cette année consacrée à Saint-Joseph, parce que c'est vraiment un très grand cadeau qu'il nous a fait à chacun de nous, à nos familles et à toute l'Église qui traverse ces temps difficiles où elle a vraiment besoin de Saint-Joseph.